J'en ai d'autres, hein. Je m'en débarrasse. Voilà. Donc, pas si vous êtes au courant, mais mon épouse et moi, nous avons quitté la France en 2019. Et on se débarrasse de beaucoup de choses. Et donc, beaucoup de paperasse et tous nos comptes personnels, etc., qui étaient dans les classeurs comme ça, bah, je les scanne, je jette les papiers ou je... Qu'est-ce qu'on dit quand on les détruit, hein. Et donc, j'ai une vingtaine comme ça, donc voilà, je les donne. Qui voudrait prier pour notre séance d'aujourd'hui? J'aurais une main, quelqu'un? Volontaire? Voilà. Ces séances une fois par mois, et donc il faut forcément faire quelques diapos de résumé pour nous rappeler quel est le début du développement du plan rédempteur de Dieu. Quelle grâce qu'il a mis en place pour nous, un plan où il allait racheter au moins un certain nombre d'hommes et de femmes. Mais après le péché d'Adam et Ève, il n'a pas simplement envoyé son fils pour mourir sur la croix et ressusciter. Tout un processus de développement. Et pourquoi? Voici le verset qui est le verset clé de notre cours, mais aussi peut-être on pourrait lire de la Bible. Tout ce qui se passe dans l'histoire humaine est censé être pour la gloire de Dieu. Censé, hein? Et donc Dieu met en place quelque chose qui sera pour sa gloire. Et il dit cette phrase au moment où les Israélites sont le plus rebelles contre lui. Et donc, c'est comme s'il avait dit, de toute façon, même si vous êtes rebelles, même si vous êtes désobéissants, vous n'avez pas confiance en moi, de toute façon, je vais accomplir ce but et ma gloire va remplir toute la terre. Mais le début de l'histoire, c'est la promesse. Une promesse avec un P majuscule, ce n'est pas une des promesses bibliques. En tout cas pour moi, c'est la promesse biblique, la promesse sur laquelle tout le reste est fondé. Et tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu a fait à la période de Jésus et des apôtres, tout ce que fait Dieu actuellement et même dans l'avenir pour nous, notre planète, je ne parle pas d'autres univers, s'il a d'autres galaxies dont il s'occupe, mais pour nous, tout se base sur cette promesse-là, de bénédiction. Je ferai la bénédiction, dernière ligne, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est merveilleux, c'est-à-dire un échantillon. C'est pas, tout le monde n'est pas sauvé, malheureusement. Mais cette bénédiction est en toi, c'est-à-dire en Abraham. Parce qu'Abraham a été choisi, non pas parce qu'il était meilleur que les autres, c'est la souveraineté de Dieu. Il a choisi un homme pour le bénir, lui, sa famille, sa nation, pour que la bénédiction déborde sur les autres nations. Et pour ce faire, l'instrument par lequel Dieu va agir, c'est une nation. Ce n'est pas encore l'Église. C'est une nation et ça va devenir une grande nation. Pour une nation, il faut des gens, d'abord. Et le texte biblique ne se concentre pas d'abord sur la bénédiction, bien qu'on peut voir un tout petit peu hein, les promesses de bénédiction qu'il y aura un vrai sacrifice à l'avenir qui résoudrait tous les problèmes du péché, mais le texte biblique se concentre sur la construction de l'instrument de bénédiction. Donc, presque le lecteur de la Bible, du début, est presque comme s'il devait mettre de côté un petit peu le développement de la bénédiction pour voir le développement de l'instrument d'abord, avec l'ajout de bénédiction, pardon des péchés que David a connu, etc. D'abord des gens, un territoire, un gouvernement, et c'est ce qui se développe. D'abord des gens, les trois patriarches. Étape 1. Ah oui, je crois que c'est la prochaine fois que je vous donnerai l'interrogation que je vous ai déjà promis. Et l'interrogation consistera à se rappeler du mot ou des deux, peut-être trois mots clés de chaque étape. Donc là, patriarche. Ensuite, les 12 tribus d'Israël, et dont le 11e fils de Jacob, en particulier, est un sauveur, c'est-à-dire il a sauvé son peuple de la famine en étant envoyé en Égypte, pour que le peuple se multiplie en Égypte et pas en Canaan. On n'accentue pas cet aspect-là. Après s'être multiplié en Égypte, le Seigneur va les faire sortir par un chef libérateur, qui est Moïse. Et donc là, on a le début d'un gouvernement. On entendait dans l'histoire un petit peu ancienne, le gouvernement c'est moi. Eh bien, Moïse aurait pu le dire. Mais le gouvernement, c'est les lois de Dieu, les lois révélées. Pas seulement les 10 commandements, mais les 613 commandements qu'on peut trouver dans la loi de Moïse. Par la loi de Moïse, nous comprenons pas seulement les 10 commandements, mais toute la révélation légale de la loi que Dieu a donnée du temps de Moïse dans l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et donc, la nation se développe, mais sans territoire. Ils sont censés prendre le territoire, y entrer, mais ils se rebellent contre Dieu parce qu'ils disent, ils ne le disent pas textuellement dans la Bible, mais c'est leur idée, Dieu est incapable de nous faire entrer dans ce pays. Nous ne pouvons pas le faire. Tandis que Dieu avait dit, je vous donne le pays, allez-y, prenez-le. Ils disaient, non, ce n'est pas possible. Et cette rébellion d'incrédulité et de désobéissance a donné lieu à une étape. Alors, dans le cours d'origine, et c'est peut-être dans vos notes la prochaine fois, ou déjà je vous ai déjà donné, le mot-clé c'est errance. Errance dans le désert erré. Mais en fait, ce n'est pas un bon mot-clé. Si vous pouvez substituer rébellion. L'errance, c'est la conséquence. Mais la cause, c'est la rébellion. Donc, quand on pense à Kadesh Barnéa, c'est la rébellion qui a causé l'errance. Bon, j'accepterai l'errance sur l'interrogation, bien sûr. Et c'est à ce moment-là, à Kadesh Barnéa, que le Seigneur a dit, la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Enfin, avec la prochaine génération, sous Josué, ils sont entrés dans le pays, ils ont conduit une campagne centrale pour couper le pays en deux, ensuite une campagne du sud et du nord, et ils ont divisé le pays entre les 12 tribus d'Israël. Ce n'était pas tout à fait comme ça, c'est schématique, bien sûr. Et à la fin de sa vie, Josué a plus de 100 ans, je crois, il est mort à 110 ans. Il a prêché 2 sermons, peut-être plus, mais on a la preuve de 2 sermons à la fin de sa vie. Vraiment formidable. Choisissez qui vous allez servir. Actuellement, vous servez, c'est-à-dire vous adorez, des idoles. Ils avaient des idoles chez eux. Et Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Attachez-vous à l'Éternel et veillez sur vos âmes pour ne pas renier l'Éternel. Et les gens ont dit, oui, nous le ferons. Problème, ils l'ont fait à moitié peut-être, mais la génération suivante, leurs enfants, qu'ils n'ont pas enseigné, eh bien, ils se sont détournés de l'Éternel, dans l'idolâtrie. Et le Seigneur les a, j'hésite quand même de dire, mais punis. On va dire peut-être corrigés plutôt que punis. Pourquoi ? Parce que la punition, la vraie punition du péché, c'est la séparation éternelle avec Dieu, c'est l'enfer. Mais la correction pour eux et pour nous aussi, ça a un effet négatif qui nous fait changer de cap. Eh bien, ils ont commencé à crier vers l'Éternel. Pas tout à fait clair qu'ils se sont repentis. Pour moi, c'est pas tout à fait clair. Mais en tout cas, la grâce de Dieu a agi. Il leur a envoyé un chef libérateur, ou un libérateur, qu'on appelle aussi les juges, qui les ont délivrés. Mais à la mort du juge, ils recommencent le cycle, hein, on va dire infernal, de cette rébellion constante. Ils n'avancent pas. Nous avons appelé notre cours la progression le développement progressif du plan rédempteur de Dieu. Mais il n'y a pas de progression ici. C'est comme dans le désert, ils erraient pendant 38 années supplémentaires un petit peu en rond. Ben là, ils tournent en rond spirituellement. Ils sont dans le pays, mais c'est vraiment, on ne voit pas comment sortir de ce cycle infernal. Eh bien, ce sera par voilà le schéma qui vous donne un petit peu l'idée du cycle infernal. C'est pas le cycle ici, mais les 12 tribus, on a les 12 territoires, sont pas vraiment liés en pointillés parce qu'ils ne sont pas vraiment unis. c'est une période c'est la désunion entre les tribus. Et là, vous voyez le rectangle, c'est Gédéon qui réunit 4 tribus seulement. Puis une cinquième s'est ajoutée par la suite. C'était rare que le peuple était uni autour d'une même... C'est arrivé une ou deux fois. Mais ces traits qui font comme ça, c'est des failles profondes dans la culture spirituelle, morale, religieuse du peuple. C'est une immoralité grossière, une idolâtrie grossière. Voilà ce qui caractérisait le peuple. Mais ici, en bas, c'est une lueur d'espoir. Et là, on a vu ensemble le Boaz, Noémie et Ruth, la Moabite, et Boaz, et cette histoire d'amour, oui, mais surtout de donner la base d'une nouvelle forme de gouvernement qui serait le roi. En tout cas, c'est ma perspective. La confédération à gauche, là, c'est comme ça que c'était dans la période des juges, mais à droite, vous avez le grand cercle unificateur. Alors, c'est quoi ça? Eh bien, c'est la venue du grand prophète, le dernier des juges, des 14 juges, et le grand prophète Samuel. Et donc, Samuel, par son ministère d'enseignement, a unifié le pays. Et le peuple, 1 Samuel chapitre 7, c'était la dernière fois qu'on a vu ça, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, c'est les chapitres 9 à 15. Chapitre 7, c'était le réveil, on va dire le dernier réveil qu'il y a eu dans la période des juges, mais c'était un réveil profond. Et pendant 120-150 ans, il n'y a pas eu d'idolâtrie en Israël ouverte. Il y a eu dans le cachet, hein, dans les maisons cachées, mais il n'y avait pas d'idolâtrie. Vraiment, le résultat d'un ministère fidèle de Samuel, c'est un très grand prophète Samuel, très grand prophète. Et il a unifié le pays. Mais à la fin de sa vie, les gens ont dit, « Ah, tes fils ne suivent pas sur tes traces, ils ne sont pas fidèles. On ne peut pas compter sur eux. D'ailleurs, ils sont corrompus. Donne-nous un roi. » Est-ce qu'il y avait du mal à demander à un roi? Peut-être. Pas forcément. Un petit peu un débat là, parmi les étudiants de la Bible. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne devaient pas demander à un roi, écoutez-moi, comme il y en a chez toutes les nations. On veut être comme eux. C'était leur perspective. Et Samuel était affligé par ça. Et le Seigneur a dit à Samuel, vas-y, donne-leur un roi, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Donc c'est très clair que le peuple, avec cette faille, même après un grand réveil, ils avaient cette faille, ils voulaient être comme les autres nations. Et pourtant, ils étaient censés être la nation choisie pour être une bénédiction à toutes les autres nations. Voilà le... N'oublions pas là où le Seigneur veut les amener. Il veut les amener à un stade où ils seront développés, mais sous beaucoup d'aspects. Prospérité, force militaire, éducation et tout, mais surtout spirituellement. Des gens fidèles qui peuvent enseigner tout sur le vrai Dieu, sur Yahvé, aux autres nations qui viendraient apprendre. Mais là, ils disent, donne-nous un roi. Et donc là, nous arrivons à notre séance d'aujourd'hui. Étape 11. Et en haut à droite de votre support, vous avez ce symbole qui est évidemment c'est une couronne, hein. Et donc ce symbole-là représente le premier roi d'Israël et sa dynastie. C'est quoi la dynastie de Saül? Ben, c'est lui, c'est tout. Ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc il y a une seule couronne, plus tard on va voir un schéma avec deux couronnes. Et donc ce sera David et Salomon qui représentera aussi toute la dynastie, les fils, les petits-fils, arrière-petits-fils de David et Salomon. Et donc, nous avons vu dans la vie de Samuel, je vais revenir sur certaines choses, avait-il raison de demander un roi? Eh bien, Samuel leur dit, « Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. » Donc, on va dire, « Oui, ils avaient tort. » Et eux, on l'a reconnu, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Mais en fait, dans les sermons de Moïse de l'autre côté du Jourdain qui sont inscrits dans le livre de Deutéronome, nous voyons un texte, on l'a déjà cité la dernière fois, j'en suis certain, lorsque vous demanderez un roi, il devrait être ainsi et ainsi et pas ainsi. Alors, pas beaucoup de femmes, pas beaucoup de chevaux, etc. Donc, moi, j'ai plutôt du côté à dire, le Seigneur avait prévu qu'il y ait un roi selon son cœur, un bon roi. D'autres sont d'un autre avis. Je crois que j'ai un schéma ici aussi, voilà. À gauche, on a l'idéal de Dieu, c'est que Dieu allait régner. Et Samuel le dit au peuple à un certain moment, il dit « Dieu régnait sur vous, et vous l'avez rejeté ». Vous avez déjà un roi, c'est Dieu. Quand c'est Dieu qui est le roi, on appelle ça une théocratie. Attention, je ne parle pas de l'Iran actuel, qui on dit la théocratie de l'Iran des imams ou des ayatollahs, mais je parle d'une vraie théocratie, le vrai Dieu qui règne dans le peuple choisi par lui, dans Israël, les Israélites. Donc à gauche, on a le règne de Dieu, à droite, on a une monarchie simple, humaine. Je ne suis pas forcément contre ce genre de gouvernement, bon, démocrate, monarchie, etc. Mais c'est simplement le règne d'un homme. Voilà un contraste. Eh bien, ils avaient, Dieu leur a appelé Israël à une vraie théocratie et eux voulaient une simple, une monarchie toute simple. Je crois que j'ai un autre schéma. Ces choses-là ne sont pas forcément dans notre support. Mais voici à gauche, plus explicitement, Dieu ne régnait pas directement dans le cœur de chaque homme et de chaque femme israélite. Il régnait par l'homme qu'il avait choisi, Moïse, Aaron dans un autre sens, Josué, les juges à un certain moment, Samuel. Samuel n'était pas roi, mais Dieu régnait par le ministère de Samuel qui enseignait la parole, vous voyez. Et donc, s'il devait y avoir un roi, eh bien, à gauche, cet homme serait le roi, mais Dieu régnerait sur le peuple par le cœur d'un homme. Je trouve ça intéressant et important, cette formule. Dieu règne par le cœur de l'homme qu'il a choisi. Cœur, dans la Bible, ne veut pas dire simplement les émotions. C'est-à-dire l'intelligence aussi, les émotions, et la volonté. C'est vrai aussi dans le Nouveau Testament. Cœur n'est pas simplement émotion, ça inclut les émotions, mais surtout l'intelligence. Plus de 50% du temps dans le Nouveau Testament, des fois, que les mentions du cœur, c'est l'intelligence que ça compte. Mais, à droite, on a le peuple a demandé, nous voulons un roi qui nous conduise dans nos guerres. C'est presque comme s'ils avaient dit, comme Nakash, le grand roi des Ammonites. Et Samuel leur dit, certainement, je rappelle la référence, c'est 1 Samuel 12, 12, il dit, mais vous avez, voyant que Nakash venait vous faire la guerre, vous avez dit, donne-nous un roi pour mener nos guerres. Et il leur dit, aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux, de toutes vos souffrances, quand vous avez dit ça. Mais le Seigneur dit, vas-y, donne-leur un roi. Et donc, nous revenons à ce symbole-là pendant un certain temps. Voilà, on ne va plus montrer beaucoup de diapos. Et j'en suis à, dans votre support, toujours la page 1. Étape 11, Dieu leur donne un roi Saül, le début du royaume. Et le choix du futur roi se fait dans 1 Samuel 9, chapitre 2. Il y avait un fils, il avait un fils du nom de Saül. Alors je cherche dans la Bible 1 Samuel. Chapitre 9, parce qu'on va sûrement lire quelques versets, quelques textes. Donc, Kis avait un fils qui s'appelait donc Saül. On remarque, c'est pas toujours écrit que les femmes sont belles et les hommes sont beaux dans la Bible, mais celui-ci était jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Je sais pas si c'était important ou non, hein, mais les dépassant tous de la tête, très grand. Comme, en fait, Nakash, le roi des Ammonites, était un grand guerrier, eh bien, c'est le Seigneur qui a choisi un grand guerrier comme Saül. Son père a perdu donc ses ânes. Donc les ânes de son père sont perdus. Il envoie Saül et son fils et un serviteur aller les chercher. Il les cherche partout, il ne les trouve pas. Il va rentrer chez lui et son serviteur dit, mais dans cette ville là-bas, il y a un homme de Dieu et on peut aller le consulter. Donc ils sont allés voir Samuel dans cette ville et Samuel était là pour un sacrifice et un repas. Une trentaine des hommes de la ville étaient invités et Et ils vont trouver Samuel, mais Samuel leur parle directement. Ah, vous êtes là? Venez avec moi. Je vous invite au repas. Et c'est tout. Le Seigneur lui a dit qu'il allait venir. Et donc, ils sont au repas, et puis donc Samuel fait de sorte au cuisinier, hein, le morceau de viande que je t'ai dit de mettre à part, donne-lui à ce grand bonhomme-là. Et donc, Saül est mis en valeur. Et le lendemain, Samuel lui dit, tu es choisi pour être le chef du peuple de Dieu. Et la réaction de Saül, vous rappelez, qui, moi? C'est un grand gaillard, un guerrier peut-être, pas s'il avait l'expérience de la guerre, mais il est humble. Il est humble, il ne se met pas en valeur. Qui, moi? Mais ma famille est insignifiante. Je viens de la plus petite tribu d'Israël. Rappelez que cette tribu de Benjamin était décimée, était dans une guerre civile. Mais Samuel lui dit, non, c'est le cas. Et voilà, des confirmations, je vais te donner trois signes. Tu vas rencontrer, alors j'oublie toujours ces gens. Ah, je les ai soulignés dans la Bible. 1 Samuel 10, 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. C'est important ça. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé en un autre homme. Et tu vas rencontrer deux hommes qui te diront les ânesses que tu as cherchées sont retrouvées. Confirmation de ce que je viens de te dire. Parce qu'il avait des doutes, je suppose. Et puis tu vas rencontrer aussi trois hommes portant trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain, un autre une outre de vin, et te donnera deux pains, donc des signes pour confirmer. Et puis troisième signe, tu vas rencontrer un troupe de prophètes. Alors là, en l'occurrence, c'est pas des gens qui prédisent l'avenir, mais simplement des gens qui louent le Seigneur. Et qu'est-ce que fait Saül à ce moment-là? Il prend le micro et commence à chanter aussi louange au Seigneur. Et d'où est venu la devise, est-ce que Saül est parmi les prophètes? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui le saisit pour faire ça. Remarquez l'importance du fait que c'est Dieu qui choisit Saül. L'Esprit de Dieu le saisit pour qu'il prophétise, c'est-à-dire loue le Seigneur. Il y a beaucoup de confirmations. Et donc, on a un comité numéro 2, comité de sélection. C'est et Dieu et Samuel. Samuel est l'instrument de sélection de Saül, l'instrument qui a été utilisé. Je suis à la page 1 toujours. Hein. Deux personnes, pas seulement Samuel, mais Dieu. Dieu a vraiment conduit cela. Donc, rappelons-nous que ça reste dans notre esprit. Saül est choisi par Dieu. Nous connaissons la fin de l'histoire, déjà, parce qu'on a déjà lu. Hein. Mais, rappelons-nous que c'est Dieu qui l'a choisi. Pourquoi le Seigneur aurait-il choisi Saül, votre roi? Question, là vous avez un cadre si vous voulez écrire, certains écrivent, d'autres non. Dieu l'a choisi pour qu'il soit le roi théocratique, qu'il soit un roi selon son cœur. La phrase n'est pas dite de Saül, mais Dieu l'a choisi pour qu'il le suive, pour qu'il lui obéisse et pour qu'il mène le peuple dans l'obéissance à la loi divine. Est-ce que Dieu savait que Saül ferait échec? Oui, évidemment. Dieu, vous savez qu'il y a un courant qui est entré dans un petit peu un certain pan du monde évangélique qui veut nous faire croire que Dieu ne comprend, Dieu ne sait pas tout l'avenir. Des théologiens qui disent, Dieu, pour moi, ça ne m'intéresse plus de lire leur théologie. Je peux même mentionner des noms, si vous voulez, mais pas français, canadien, américain. Mais non, Dieu sait que ça lui va faire échec. Vous qui avez lu toute la Bible, Dieu savait aussi qu'Israël allait faire échec. Mais Dieu a choisi Abraham et a dit, toi et ta descendance, vous serez en bénédiction à toutes les familles de la terre. Ce n'est pas un problème pour la souveraineté de Dieu. Il sait que Saül va faire échec, mais est-ce que nous, on devrait dire, il a choisi Saül comme bouche-trou en attendant que David grandisse? Non. Je ne crois pas que ce serait la bonne perspective. Saül n'était pas un roi jetable. Il y a 30 ans, on achetait des petits appareils photo jetables, et puis on prenait les photos, on prenait le film, puis on jetait le reste, on faisait recycler. Saül n'est pas un roi jetable. Il est censé obéir. il est censé être un bon roi. Il y a des phrases favorables à Saül. Je vais les lire, elles sont dans mes notes, je vous donne les références si vous voulez les noter. Sont tous dans 1 Samuel, hein. 9, 2, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, dépassant tous la tête, son aspect physique. 9, 21, ne suis-je pas Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Ma famille n'était pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin. Pourquoi tu me parles comme ça, hein? Humilité. 10, versets 6 et 10, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. Un troupe de prophètes sort et l'Esprit de Dieu le saisit, il prophétisa, il loua le Seigneur. Donc, c'est un instrument du Saint-Esprit pour la louange de Dieu. Mais surtout, 10, verset 7, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, deviens le roi. Hein. Pourquoi? Car, et là, la phrase est tellement importante, car Dieu est avec toi. Ça, c'est tout. Si Dieu n'est pas ici dans cette salle lors de notre culte, ce n'est pas une église. Si Dieu n'était pas avec eux, les Israélites, ce n'était pas le peuple de Dieu. Et Dieu leur a dit à la génération perverse et rebelle dans le désert, vous saurez ce que ça veut dire que d'être privé de ma présence. Ça, c'est terrible. Donc Dieu est avec Saül. Chapitre 10, verset 9, Dieu lui donna un autre cœur et tous ses signes s'accomplirent le même jour. Il me semble que quand c'est écrit que Dieu lui donne un autre cœur, et à un certain moment c'est vrai aussi pour d'autres personnes, dans la période du Nouveau Testament, on aurait dit il est né de nouveau. Une formule différente, mais il me semble. Hein. Quand il sera choisi à Gibéa et puis tout le monde apprend que c'est Saül qui doit être le roi, on va le chercher, il n'est pas là, où est-ce qu'il est? Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici les cachets vers les bagages. Bon, c'est le plus grand de tous, mais ce cas, peut-être qu'il n'a pas énormément confiance en lui, mais on voit au moins une certaine humilité, au moins. Hein, dans ce cas-là, humilité. On courut le tirer de là, il se présenta au milieu du peuple, il dépassait tous la tête, encore une fois l'aspect physique. Mais c'est l'élu de Dieu. Voilà la chose la plus importante. Samuel dit à tout le peuple, 10, verset 24, voyez-vous que l'Éternel l'a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris. Et au début de son, j'ai presque dit de son ministère, oui, son ministère de roi, vous savez que ce n'est pas seulement les gens comme moi qui sont, entre guillemets, à plein temps dans le ministère. Mais si on est médecin, charpentier, plombier, etc., on a aussi un ministère. Le ministère du travail, c'est important ça aussi. Donc son ministère d'être roi, eh bien, il y eut à ce moment-là des hommes pervers qui disaient « Quoi, c'est celui-ci qui nous sauvera ?» Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Tous ceux qui disaient « Oui, bravo, on a un roi maintenant, eh bien, il faut lui offrir quelque chose. » Ça, c'est dans la culture humaine, c'est toujours le cas. Hein. Mais certains disent « On ne lui donne rien du tout. » On n'est pas de son côté, on n'a pas voté pour lui. Écoutez ce que dit le texte. « Mais Saül n'y prit point garde. » Saül n'y prit point garde. Je continue. Il est l'instrument du Saint-Esprit. Au chapitre 11, verset 6, quand Saül entend que Jabez en Galade est assiégé par les Ammonites, les Nakash, oui, les Ammonites, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Il a réagi. Il est saisi par l'Esprit de Dieu, Saül. Hein? Pas seulement David. Mais... Et quand il remporte la victoire sur Nakash et les Ammonites, qu'est-ce que dit Saül? Eh bien, les gens autour disent, où sont ceux qui ont dit que Saül serait pas roi? On va les exécuter, ils seront mis à mort. Et Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour. Car, est-ce que vous rappelez ce qu'il a dit? Aujourd'hui, l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Il n'a pas dit, car j'ai remporté une victoire. Il n'a pas dit ça. Il dit, l'Éternel a opéré une délivrance. Au début de sa royauté, il était humble, il était pris par l'Esprit de Dieu, c'était un instrument de Dieu, il donnait gloire à Dieu, même pour ses succès. Donc ça, il faut, Dieu ne joue pas avec lui comme un roi jetable, il lui donne toute l'occasion de bien régner. On a besoin de mettre deux choses ensemble et nous avons un peu de mal. Dieu savait ce qu'allait venir, la désobéissance de Saül et son rejet. Mais en même temps, cette offre était de bonne foi. Ce n'est pas la seule fois dans la Bible. L'offre de Dieu était de bonne foi, mais il savait que l'offre serait rejetée. J'ouvre une parenthèse et je la ferme rapidement. Je crois que c'est ce qui s'est passé dans le ministère de Jésus, qu'il y avait une offre du royaume de Dieu à Israël qui a été rejetée et qui a été remise pour plus tard. Je ferme la parenthèse. Chapitre 10, verset 17, grand B, je suis toujours à la page 1, la réunion à Mitzpah. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. C'était le lieu de réveil quelques années auparavant, dans 1 Samuel 7. Et il déclare publiquement que Saül est roi. Il est humble, pas impressionnant. On a déjà parlé de ça, donc on revient là-dessus. Et presque tout le monde dit « Ah, d'accord, c'est notre roi. » Certains disent « Non, non, on ne veut pas de lui. » Et à la fin de la cérémonie, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on rentre chez soi. Et Saül aussi, il rentre chez lui. Il reprend le travail à la ferme de son père. C'est pas comme ça qu'agit un roi. Oui, mais il n'y a jamais eu de roi en Israël. Et il n'y avait personne pour apprendre à Saül comment être roi. Et donc, il va labourer les champs. Mais il y a une crise, donc la page 2, la royauté confirmée, la crise de Jabès-Galaad. Jabès-Galaad est une ville de l'autre côté du Jourdain, du côté oriental, et les Ammonites, Nakash vient l'assiéger et dire « rendez-vous à nous, et donc si vous rendez, vous aurez la vie sauve, mais je vais crever l'œil droit de chaque homme de la ville. » Et là, il y a une chose bizarre. Les Jabès-Gileadites, ils disent « Ah, Sire Nakash, donne-nous une semaine pour envoyer des messagers à nos frères israélites pour venir nous délivrer de ta main. Et s'ils arrivent, bah, tant mieux, sinon nous rendrons. » C'est un peu bizarre ça, je trouve, non ? Et Jabès dit, Nakash dit « Oui, d'accord, allez-y. » Et donc c'est ce qui arrive. Mais quand Saül entend la nouvelle, ah, Saül est de quelle tribu ? Benjamin. Benjamin, Jabès-Galaad, ça vous dit quelque chose ? Non ? Lors de la guerre civile, quand les Benjamites ont été presque tous anéantis, il y avait 600 hommes qui restaient sans épouse, et on est allé chercher des épouses pour 400 d'entre eux à Jabès-Galaad. Donc les descendants Benjamite, donc Kish et Saül, leur arrière-grand-mère venait, certains d'entre eux, de Jabès-Galaad. Et quand Saül entend ça, ah bien, qu'est-ce qui arrive ? Mes notes sont trop succinctes. Saül, il est saisi du Saint-Esprit. Pas la référence, vous l'avez ? 11, verset 6. Il fut saisi de l'Esprit de Dieu et en conséquence, quelque chose de bizarre pour nous. Sa colère s'enflamma fortement. Alors ne me dites pas, quand vous mettez en colère, que c'est le Saint-Esprit que vous... Peut-être, hein, mais bon. Mais là, en l'occurrence, il était censé réagir violemment pour délivrer une ville en Israël des ennemis païens. C'était son rôle. Il devait mener les guerres de l'Éternel. C'est une phrase qui veut tout dire. Il ne pouvait pas être pacifiste à l'époque. On peut l'être maintenant, mais il ne pouvait pas. Donc ça aussi, c'est difficile à saisir. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les bœufs avec lesquels il laboure, il les dépèce, on dit comme ça, dépèce. Et puis il envoie des morceaux de viande dans tout le pays avec le message explicite. Si vous ne venez pas combattre avec moi contre les Ammonites, je vais faire de sorte que vos bœufs soient traités de la même manière. Donc vous allez perdre économiquement. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? La guerre civile et la femme, la concubine du Lévite, qui a été mise en morceaux, oui. Donc, et qui était une infamie en Israël. Ici, c'est différent. Donc on peut contraster ces deux choses, si vous voulez. Et donc il remporte la victoire. contre les Ammonites. C'est à ce moment-là, c'est dans vos notes, le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous ? Livrez ces gens, nous les ferons mourir. Vous savez que c'est un petit peu dans l'histoire humaine, il y a toujours des représailles. Hein. Les gens qui sont du mauvais côté, il n'y a pas très longtemps en France, hein, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, représailles contre les collaborateurs. Eh bien, certains ont été maltraités, d'autres mis à mort et pendus. C'est très courant. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort. Aujourd'hui, l'Éternel a opéré une délivrance. Donc on voit le fonctionnement d'une théocratie en Israël par l'intermédiaire de l'homme que Dieu a choisi. Le schéma que j'ai déjà montré. Et dans chapitre 11, verset 15, il y a un deuxième couronnement. Pourquoi ? Ben, pour accentuer la chose. Parce que le premier couronnement n'a pas fait l'unanimité. Donc maintenant, tout le peuple se rendit, pas au même endroit, mais à Gilgal, et ils établirent Saül pour roi. Et Samuel va donner un discours d'adieu au chapitre 12. Chapitre 12, versets 6 à 11, il leur donne une leçon d'histoire. L'Éternel a établi Moïse et Aaron et tout ça. Et il leur rappelle, mais vous autres Israélites, vous avez oublié Dieu. Vous avez tourné vers des idoles. Et vous avez reçu des jugements de la part des peuples païens. Mais le Seigneur a fait des grandes délivrances. Verset 9, ils oublièrent l'Éternel. Verset 10, ils crièrent encore à l'Éternel. Verset 11, et l'Éternel envoya différentes juges pour les délivrer. Il leur donne une leçon d'histoire. Très souvent, dans notre lecture de la Bible, nous trouvons dans l'Ancien Testament que les Israélites, puis ensuite les Juifs, aimaient, c'est utile aussi, mais ils aimaient revoir leur histoire. Le psaume 105 et le psaume 106 revoient l'histoire d'Israël depuis Abraham, je crois, hein, depuis Abraham. Est-ce qu'on rappelait le discours d'Étienne devant le Sanhédrin dans Actes chapitre 7. Il leur fait une leçon d'histoire à ces hommes érudits qui connaissaient tellement bien. Mais comment est-ce qu'on donne une perspective la façon dont on raconte l'histoire donne une certaine perspective, on pourrait même dire un billet. Et Étienne a donné un certain billet qui les a mis en colère. Donc ici, Samuel dit, je revois l'histoire, et l'histoire c'est que vos pères, vos ancêtres, ont été infidèles. Ils ont été jugés. Ils ont crié, et le Seigneur les a délivrés. Mais maintenant, vous aussi, vous avez été infidèles. Vous avez rejeté Dieu en demandant un roi. Et verset 12, « Cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. » Mais il y a quand même une grâce. Et Dieu sera avec vous, dit Samuel, si... Alors on parlait de conditionnalité. Il y a des conditions. Verset 14. Je ne sais pas si je l'ai dans les notes ou pas. Oui, je vais plus loin. Donc, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Servez l'Éternel de tout votre cœur. Ces deux phrases résument beaucoup de l'histoire d'Israël que nous lisons dans l'Ancien Testament. Ne vous détournez pas de Dieu, servez Dieu de tout votre cœur. Donc, ça peut marcher, si. Donc, toujours la page 2, un choix est clairement devant eux. Soit craindre l'Éternel, soit désobéir et périr. Petit A, petit B. Verset 14, si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez, si vous n'êtes pas rebelle à la parole de Dieu, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Dans ce cas-là, tout baignera. Hein? Vous serez bénis, etc. Hein? Mais, si, verset 15 et 25, si vous n'obéissez pas, qu'est-ce qui arrivera? Si vous êtes rebelle, la main de l'Éternel sera contre vous. Dans l'histoire d'Israël, que la main de l'Éternel sera pour vous ou contre vous, voilà, Dieu agit pour son peuple, pour le bénir et lui donner victoire sur les ennemis. On trouve ça beaucoup de fois. Mais là, avertissement, attention. Si vous vous détournez de Dieu, si vous êtes rebelle contre la parole de Dieu, la main de l'Éternel sera contre vous. Si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Vous parlez d'un discours. Ils ont dû le prendre à cœur. Remarquez que Samuel n'a pas inauguré ici une alliance différente. Il ne fait que répéter les conditions de l'alliance faite, que Dieu a faite avec Israël et qu'Israël a fait avec Dieu à Sinaï, quand Moïse les a conduits. Moïse a dit à ce moment-là, je ne vais pas chercher les textes, mais c'est dans Exode ou Lévitique au Nombre, dans ces eaux-là, si vous obéissez, vous serez bénis. Deutéronome chapitre 16, je crois. Si vous obéissez, vous serez bénis, et je vous bénirai votre bétail, je bénirai le sein de vos épouses, vous aurez beaucoup d'enfants en bonne santé, etc. Mais si vous détournez, si vous désobéissez, même le pays vous vomira. Donc il y a à l'obéissance bénédiction, à la désobéissance malédiction, et le peuple s'engage. C'est une alliance bilatérale, hein, des deux côtés, conditionnelle. Si vous obéissez, vous serez béni. Si vous obéissez pas, vous serez maudit. Et en fait, elle n'est pas éternelle. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons que cette alliance-là était en train de disparaître. Donc, Samuel ne fait que leur rappeler les conditions de l'alliance que Dieu avait fait avec eux et qu'eux avaient fait avec Dieu il y a plusieurs siècles auparavant. C'est le rôle d'enseignant de la parole de Dieu. C'est le rôle d'un prophète dans le sens d'enseignant plutôt que celui qui révèle une nouvelle parole de Dieu. Ésaïe et Jérémie, ils ont révélé de nouvelles choses. Samuel a enseigné ce que Moïse avait déjà révélé, que le Seigneur avait révélé par Moïse. Donc c'est deux rôles différents. Effectivement, oui, le droit du roi. Effectivement, je n'ai pas. Je crois qu'on a mentionné ça la dernière fois, mais je ne l'ai pas répété ici. Le droit du roi, attention, le roi va venir prendre vos fils pour être ses serviteurs, ses guerriers. Saül a fait ça avec David. Hein. David a tué Goliath. Et Saül dit, tu ne rentres pas chez toi, tu restes ici. Et vos filles pour être parfumeuses, boulangères, etc. Hein. Et même prendra la dîme, même plus de vos champs. Il va vous taxer énormément. Hein. Le règne de Saül, au chapitre 14, mais on va revenir sur le chapitre 13. On va revenir sur le chapitre 13, 14 et 15. Mais à la fin du chapitre 14, on a ces versets 47 à 52 que je vous lis. Et c'est très positif. Il a rempli son rôle de roi. C'était un libérateur, surtout des Philistins qui attaquaient Israël, et un bon administrateur. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis. Mais quelqu'un qui fait la guerre, c'est pas un serviteur de Dieu. Si. Dans cette période d'histoire, il était censé faire la guerre. Ça me semble étonnant, mais il était censé faire la guerre. À Moab, aux enfants d'Ammon, ça c'était Nakash, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. C'était surtout les Philistins qui ont été difficiles. Partout où il se tournait, il était vainqueur. Saül, hein, pas David. Vous voyez ? Il manifesta sa force, bâtit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. C'est un résumé des aspects positifs du règne de Saül. Il y a autre chose. Et là, en l'occurrence, ce paragraphe-là est censé être positif. Ensuite, les fils de Saül étaient Jonathan, Jishvi, Malkishua. Ses deux fils s'appelaient l'aîné Merab, la jeune Mical. Le nom de sa femme était Tel, le nom du chef de son armée, Abner, un homme très important. Pendant toute la vie de Saül, il y eut guerre acharnée contre les Philistins. Et chaque fois que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Voilà, ce résumé est très positif. Quand nous pensons à Saül, nous pensons à son échec. Mais il faut d'abord dire, il a été serviteur de Dieu, hein, comme Salomon. Nous ne pensons pas tout de suite à l'échec de Salomon. On pense à sa sagesse, à sa fidélité, première partie de sa vie. Mais Saül est pareil. Peut-être pas autant de temps, je ne sais pas. Hein. Si. Exact, oui. Exact. On pense. Et on devrait penser à l'échec de Salomon un peu plus. Et à, Il me semble que c'est à peu près moitié-moitié, 20 ans de service fidèle de Saül et 20 ans de... qu'on va voir là. Tu veux dire quelque chose? Alors, grand B, page 3, le prophète Samuel présente une pièce de théâtre en trois actes. Acte 1, c'est chapitre 13, acte 2, chapitre 14, acte 3, chapitre 15. Et le titre, j'ai pas de titre vraiment prenant là, mais un bon début ne garantit pas une bonne fin. Comment dire ça de façon plus saisissante? Dans le premier acte, chapitre 13, eh bien, il s'agit de l'offrande, on peut dire, inappropriée. Saül allait entrer en guerre contre les Philistins, en bataille. Il était en guerre constamment, mais en bataille. Les Philistins étaient dressés d'un côté, lui était de l'autre, de la vallée. Et Samuel avait dit, « Je viendrai offrir un sacrifice pour demander l'aide du Seigneur. » Mais il y aura un certain délai, apparemment de 7 jours. Mais... ah! Tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, on n'a pas gagné la course. Ou alors, permet que je rentre chez moi avant la tombée de la nuit. On va travailler là-dessus. Un bon début ne garantit pas une bonne fin. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les soldats de Saül commencent à avoir peur. Vous savez, tout délai de bataille, sur le temps de réfléchir sur une chose mauvaise qui va arriver, on commence à... Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Certains ont rentré chez eux. D'autres sont réfugiés dans les cavernes et dans les montagnes. Certains ont passé le Jourdain et ne voulaient pas se battre. Et Saül voyait, jour après jour, son armée se dissiper. Il disait, mais je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Engageons la bataille. Mais Saül, très religieux, je veux dire quelque chose d'important si on veut étudier la biographie de Saül. Il est extrêmement religieux. On pourrait même dire plus que David, dans un certain sens. Quand David s'est repenti, il a dit, « Seigneur, tu ne m'as pas demandé d'offrir des sacrifices. » C'était faux, d'ailleurs. Mais il voulait dire, c'est le cœur qui compte, pas forcément les signes extérieurs. Mais donc, Saül accentuait non pas les signes extérieurs de richesse, mais les signes extérieurs de sa religion. Et il a dit, « Je ne peux pas entrer en bataille sans offrir un sacrifice au Seigneur. » Et donc, il a fait lui-même. Et dès qu'il a offert, il était de la tribu de Benjamin, pas de la tribu de Lévi. Il n'avait pas le droit. Il était roi et pas prêtre. Dès qu'il finit, qui est-ce qui pointe le nez après tant de délais? Eh bien, Samuel, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Et Saül répond, mais tu comprends, tu n'arrivais pas, il fallait que j'offre un sacrifice. Je me suis fait violence. Verset 12, on est où là? 13, 12, je tourne la page. Je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Mais il s'est fait violence parce qu'il savait que c'était qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et donc, parlant, comment Samuel lui dit, répond, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Pour moi, ce n'est pas clair exactement à quel commandement il fait référence, mais au moins qu'il n'avait pas le droit d'offrir ce sacrifice. Il a pris un rôle qui n'était pas le sien. Quoi? D'accord. Merci, mais on va continuer. On ne peut pas entrer dans ces... Effectivement, on ne sait pas toujours ce qui est bon à faire, mais le texte est clair que Saül aurait dû savoir. Parce qu'il répond, tu es agi en insensé, tu n'as pas obéi, tu n'as pas observé le commandement. Donc, je me contrains à ça. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Encore, une difficulté avec ça aussi, n'est-ce pas? Parce que le roi ne devait pas venir de Benjamin, mais de Juda. Hein? Mais maintenant, ton règne ne durera point. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il désobéit. Moïse a désobéi une seule fois, il n'est pas entré dans le pays. Donc, je crois qu'il ne faut pas dire le Seigneur n'a pas donné une deuxième chance. Parce qu'il était coupable. Le Seigneur était juste. Bon, vous travaillez là-dessus. Hein. Et Samuel ajoute, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Est-ce que ça sous-entend, Saül, tu n'es pas un homme selon son cœur? Mais en fait, Saül aurait pu choisir d'être entièrement au Seigneur, d'être un homme selon le cœur de Dieu. On va revenir sur cette idée la prochaine fois, donc en janvier, sur l'idée du cœur. Parce que Salomon va soulever le problème du cœur. Le cœur étant l'intelligence, les émotions, mais aussi la volonté. Nous sommes censés choisir le bien. Et on n'a pas d'argument contre Dieu quand on choisit le mal. L'Éternel l'a destiné, donc celui-là, un homme selon son cœur, à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, il y a un échec, et tout de suite, ça tombe. Il est rejeté. Mais il ne va pas perdre son trône tout de suite. Tout de suite. Il y a une faille profonde chez Saül. Il aurait pu avoir une dynastie éternelle. Deuxième acte d'échec, c'est le chapitre 14. Au chapitre 14, les Philistins attaquent. Jonathan et son aide de camp, ils font une incursion chez une garnison philistin. Une vingtaine de Philistins qui sont sur la crête en haut, et Jonathan et son compagnon se montrent, et les Philistins disent « Hé, montez ici, on va vous montrer quelque chose. Hein? » Donc ils montent avec les mains et les pieds, et Jonathan commence à les tuer, les tailler en pièces. Son compagnon suit derrière pour achever, donner le coup de grâce, et il tue une vingtaine de Philistins. Mais c'est un grand guerrier, Jonathan, hein? Un grand héros d'Israël. Mais le résultat, c'est que les Philistins commencent à paniquer, et les Israélites commencent à les attaquer, et c'est la déroute des Philistins, c'est une grande victoire des Israélites, et les poursuivent même dans la forêt jusqu'aux portes de Gath, une de leurs villes, et ils auraient pu remporter une très grande victoire sur les Philistins. Mais Saül a dit: malheur à celui, maudit soit celui qui mange aujourd'hui avant ce que j'ai. La phrase est parlante. Avant que je me sois vengé de mes ennemis. Non pas avant que le Seigneur donne victoire. Hein. Ça a changé. Et donc personne ne mangeait. Il se fatiguait. Mais Jonathan n'avait pas entendu cet ordre. Et quand lui, il poursuit les Philistins par la forêt, il voit, alors je suppose qu'il y avait beaucoup d'abeilles dans cet arbre parce que le miel était sorti de leur nid d'abeilles et puis il descendait même sur la terre. Et presque sans s'arrêter, il prend un peu de miel sur son bâton, il en mange et continue. Il prend des forces. Mais ne sais-tu pas que ton père a dit on n'a pas le droit de manger? Ah, alors, Jonathan dit, mais mon père, bon, je vais résumer, mon père a fait une erreur. Il affaiblit l'armée. On aurait pu remporter encore une plus grande victoire. Ne voyez-vous pas comment j'ai repris des forces? Et donc, à un certain moment, les hommes s'arrêtent. Ils ont pris beaucoup de bétail des Philistins. Ils ont faim. Ils ont combattu toute la journée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les animaux et mangent la viande avec le sang, ce qui est interdit. Et Saül, très religieux, il dit: mais non, on ne peut pas faire ça. Arrêtez. Venez avec ce rocher, et puis donc là, ils ont fait saigner les animaux avant de les manger. Mais à un certain moment, j'ai lu il y a quelques jours, mais j'ai oublié comment ça se fait que Saül s'est interrogé, est-ce que quelqu'un ici a péché? Je crois que le Seigneur ne lui a pas répondu à une question. Et donc, il dit, quelqu'un a péché ici. Et donc, il demande au prêtre de faire la différence entre le peuple et lui et Jonathan. Il y avait un soupçon. Et Jonathan est pris par le système. Et donc, Saül apprend, interroge. Oui, c'est vrai que j'ai mangé aujourd'hui, je ne savais pas, etc. Donc, père, tu peux me tuer si tu veux. Eh bien, je vais te tuer, Jonathan. Pourquoi? Que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur, c'est la phrase consacrée, si tu ne meurs pas aujourd'hui, Jonathan. Voilà. Et là, on va voir que les rois d'Israël, au moins au début, Saül et David aussi, n'avaient pas tous les pouvoirs. C'était un rôle non seulement régal. Nebuchadnezzar, par exemple, droit de vie ou de mort sur tous les gens dans l'empire babylonien, mais pas en Israël. Régalien. C'était un pouvoir régalien, mais aussi politique. Dans le sens, il devait gagner l'approbation du peuple. Là, le roi vient de dire, cet homme mourra, c'est son fils, hein, cet homme mourra, mais le peuple dit à Saül, quoi ? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël ? Loin de là, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête. Et donc, ainsi, le peuple sauva Jonathan, et ne mourut point. Qu'est-ce que cet épisode montre sur Saül ? Il se prend pour Dieu, on pourrait le voir tout à fait de cette façon-là. En tout cas, il se substitue à Dieu dans le sens de la victoire. Mais il a l'attitude religieuse, j'accentue, hein, il est très religieux. J'ai fait un vœu impossible que je revienne sur ma parole. Je ne suis pas menteur, moi. Voyez un petit peu, il me semble que c'est l'attitude. J'ai fait un vœu... que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur si je ne tiens pas parole. Je dois tenir parole. Pourquoi ? Une part d'orgueil, une part de contrainte religieuse. Quand on fait un vœu devant le Seigneur, il faut le faire. Quel est le problème dans vos notes ? C'est le problème. Le problème, la première fois aussi, premier acte, page 3, le problème, c'était lors de l'offrande, c'était son attitude de cœur, on va dire. Et maintenant, page 3, le problème, c'est sa réponse à la situation, son attitude de cœur. Son attitude, c'est « J'ai fait un vœu, celui qui mangera aujourd'hui, etc., doit mourir, c'est mon fils, tant pis ». Je suis un homme de parole, moi. Je vois de l'orgueil, là. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu dire autrement ? Je vais vous suggérer ce qu'il aurait pu dire, plutôt que ça. Seigneur, j'ai fait un vœu stupide. S'il te plaît, délivre-moi de ce vœu. Mais on ne voit pas cette attitude-là. Il aurait pu. De toute façon, il n'a pas pu... mettre en œuvre son vœu. Il n'a pas pu le faire, le peuple l'a empêché. Seigneur, délivre-moi, s'il te plaît, de ce vœu stupide. C'est seulement une suggestion. Troisième acte, les Amalécites. Ah, les Amalécites, là, on a un massacre ordonné par Dieu. Ça peut nous créer des problèmes d'ordre éthique. Si vous voulez, on peut en discuter. Je n'ai pas tellement envie parce que ça nous prendrait beaucoup de temps et on ne trouverait pas la solution, je crois. Bon, à vous de voir. Mais ce qui arrive, c'est que Samuel vient voir Saül, le roi, et dit, le Seigneur t'ordonne d'aller anéantir, et le mot est là, ces pécheurs d'Amalécite. En fait, quand Dieu a parlé à Abraham pour lui dire, annoncer quelque chose sur l'avenir, il lui a dit, tes descendants vont descendre en Égypte et ils y remonteront. Et en partie, il a donné cette raison, parce que les péchés des Amorites, c'est une des pays, une des tribus cananéennes, ne sont pas à leur comble. C'est-à-dire, le Seigneur a donné une chance à ces peuples païens de se repentir pendant des siècles et des siècles. Et pour moi, ce n'est pas écrit dans la Bible, et c'est sous-entendu que le Seigneur les a avertis. On ne m'étonnerait pas qu'on découvre, dans un avenir certain, quand nous saurons beaucoup plus de choses, on ne saura pas tout, hein, mais on ne sera pas omniscient comme Dieu, mais qu'il y a eu des prophètes, c'est-à-dire des hommes de Dieu, qui sont allés avertir les Ammonites, les Cananéens, voyez. Et donc, maintenant, le temps est venu, on discutait de ça tout à l'heure, quand le Seigneur se met en colère, ce n'est pas qu'il perd contrôle de lui, c'est qu'il décide, le moment est venu, que je dois porter jugement. Je peux référence référence au jugement dernier, qui sera où tous les péchés qui n'ont pas été jugés en Jésus-Christ sur la croix. En fait, tous les péchés ont été jugés en lui, mais tout le monde n'accepte pas. Mais les péchés qui ne sont pas effacés par le sang de Christ sur la croix, les nôtres qui ont cru en lui, ben, tous les péchés seront jugés. Hein? Donc ici, c'est un préavis, un aperçu du vrai jugement de Dieu. Bon, je me l'explique comme ça, mais il dit, il faut les anéantir. Hommes, femmes, enfants, bœufs, ânes, brebis, poulets, on les compte. Ça le fait quand même un petit peu un choc, là. Hein? La sévérité de Dieu. Si on n'accepte pas que la Bible est la parole de Dieu et que Dieu est vraiment a le droit de juger, on va rejeter ça. Hein? Nous connaissons les gens qui rejettent ça. Mais si nous acceptons que la Bible est vraiment la parole de Dieu, eh bien, ça nous parle de la gravité du péché, des nôtres aussi. Nous avons besoin de vraiment engranger ce genre de choses. Donc tu vas les anéantir. Et Saül y part, et il obéit presque complètement. Il épargne le roi. Ah, c'est un collègue. Il est roi, je suis roi. Et puis certaines bêtes, les meilleures des bêtes. Samuel arrive. Donc je suis au verset 13 de chapitre 15, si vous voulez suivre. Verset 12, Saül s'est érigé un monument. Bon, c'est les plus humbles. Et la première chose qui est dite, Saül lui dit, ah, bonjour Samuel, sois béni de l'Éternel. Je viens d'obéir à la parole que tu m'as donnée. Mais dans ce cas-là, quel est le bêlement des brebis que j'entends? Il y a les bêtes. Ah mais tu comprends. Le peuple, ça me rappelle Adam, la femme que tu m'as donnée. Non, le peuple a choisi parmi les bêtes pour les offrir en sacrifice à ton Dieu. Encore une fois, il tombe dans le travers religieux. Et Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, hein, tu étais humble, tu te cachais parmi les bagages, n'es-tu pas devenu, par le Seigneur, chef des tribus d'Israël, etc. Verset 19, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Écouter veut dire obéir, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que répond Saül? J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Tu n'as pas obéi. Si j'ai obéi. J'ai fait exception. Et ensuite, les versets importants, versets 22-23, où le prophète dit au roi, je vais donner un aperçu d'abord. Saül, est-ce que tu comprends bien ce que tu viens de faire? Est-ce que tu comprends bien ce qui est en valeur et précieux aux yeux de l'Éternel? Qu'est-ce qui est important? Eh bien, il dit l'obéissance. Vaut mieux que les sacrifices. Tu veux offrir ces brebis en sacrifice, tu veux faire un acte religieux. C'est l'obéissance. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et il va plus loin. Alors, est-ce que vous êtes au courant que Saül, je crois que ça s'est déjà passé, il avait mis hors la loi tous les magiciens, les nécromanciens, les diseuses de bonne aventure, etc. Les sorcières. Ils étaient mis au banc de la société, vous partez, on va vous tuer, etc. Et il n'y avait pas d'idolâtrie dans le palais de Saül. Hein. Il était très religieux vis-à-vis de Yahvé, du Seigneur, de l'Éternel. Et là, mais le prophète dit, la désobéissance que tu viens de faire est aussi coupable que la divination, que l'occultisme. La résistance envers Dieu n'est pas moins coupable que l'idolâtrie. Tu crois que tu es un homme bon devant le Seigneur, tu es religieux parce que tu offres des sacrifices et tu n'as pas d'idolâtrie, tu ne consultes pas les sorcières, etc. Mais cette désobéissance n'est pas mieux que ça. Tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette. Saül dit à Samuel, « Oh, d'accord, j'ai péché. » Ah, c'est bien ça. J'ai péché, il va se repentir. J'ai péché, mais reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Bon, la façon dont je comprends la chose, c'est que Samuel et Saül sont là. Le peuple est là, mais le peuple est trop loin pour les entendre. D'accord, d'accord, Samuel, j'ai péché, mais ne pars pas comme ça. Viens, on va offrir un sacrifice ensemble. Sous-entendu, le peuple va voir que tout va bien. Hein? Et Samuel refuse. La vie du peuple est plus importante pour lui. On dirait en tout cas, hein. Je crois que c'est comme ça. Hein. Et puis Samuel dit, je ne retournerai pas avec toi. Tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. C'est la deuxième fois qu'il dit, tu es rejeté. L'Éternel te rejette. Afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Je ne crois pas qu'on puisse être plus explicite, plus clair que ça. Et donc Samuel, j'aime bien cet épisode, Samuel se détourne. Saül le prend par le vêtement pour le retenir et ça déchire. Et en tant que bon prophète qui profite de chaque situation, Samuel se retourne et dit, le Seigneur te déchire aujourd'hui le royaume. Tu as déchiré mon manteau, le Seigneur te déchire le royaume. Mais ensuite, ça lui dit, mais reviens quand même. Et verset 30, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi, j'adorerai l'Éternel ton Dieu. C'est pour ça que j'ai imaginé, le peuple n'entendait pas la conversation, mais il voyait. Et donc, si tu viens avec moi, on va offrir un sacrifice ensemble, ils vont croire que tout va bien. Et en fait, Samuel l'a fait. En faiblesse peut-être, je ne sais pas, mais Samuel l'a fait. Et voilà la fin de cet épisode. Troisième acte. Alors, c'est intéressant. Dans ce texte, tu as raison, Jean-Marc, Saül dit constamment, Samuel, ton Dieu. Il ne dit pas mon Dieu. Et j'ai pensé comme toi, en tout cas tu suggères, mais j'ai pensé, ah oui, c'est parce que, bon, il n'était pas engagé comme ça. Mais en fait, j'ai trouvé cette même phrase dans d'autres textes qui ne sous-entend pas la même chose. Le contexte me fait penser qu'il n'avait pas cet engagement auprès de Dieu. Mais il y a un autre passage, je ne me rappelle plus où, où il y a cette phrase, ton Dieu, mais c'est clair que la personne qui parle est aussi engagée. Et donc, c'est peut-être simplement une formule. C'est peut-être simplement une formule. Oui. Oui. Donc, la formule était appropriée.
Oui, parce que c'est vraiment lui qui avait le contact avec Dieu.
Exact. Exact. Donc, la formule, ton Dieu, n'est pas forcément veut dire... Ah, peut-être. Oui. J'avais la même impression. Oui. J'avais la même impression, mais après je me suis remis en question à cause. Exact. Donc, ah. Oui. L'honneur, oui. Oui.
Oui.
Oui. Peut-être manipulé, hein. On dirait, certainement. Après cela, il n'a plus le contact avec Dieu. Et vient un moment où Saül veut consulter Dieu par la méthode 1, la méthode 2, la méthode 3, et Dieu ne répond pas. Donc c'est vrai qu'il a... Et peut-être ça a commencé avant. Tout à fait. Je vois ta réflexion. En bas de la page 3, leur problème, c'est sa réponse, comme d'habitude, à la situation. Il aurait pu se repentir vraiment. Son attitude n'est pas une attitude de se remettre en question. Mais ça, vous savez, les responsables humains, quand ils arrivent à avoir encore plus de responsabilités, les plus hautes fonctions, ils ont du mal. On les comprend quelque part, mais ils ont du mal à se remettre en question. Je ne vais pas commencer à parler de cas particuliers, mais on l'observe, même récemment. C'est très difficile de se remettre en question. Et je le trouve moi-même dans mon cœur. Et des gens qui ont été mon chef, j'ai du mal avec mes chefs qui ne sont pas remis en question. Voilà. Page 4, le point culminant. Saül est rejeté en tant que roi. L'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Je ne connais pas de phrase dans la Bible plus claire que ça. Donc là, Saül, ce qui arrive, c'est qu'il ne va pas mourir tout de suite ou il ne va pas être exilé. Je ne sais pas. Hein. L'épilogue, Dieu se retire de Saül, c'est au chapitre suivant, 16, verset 14. Je vous lis le verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et c'est la fin, non pas de la royauté de Saül, mais remarquez le schéma, c'est la fin de la théocratie. La théocratie, non pas directe, mais indirecte par le cœur d'un homme. Et la communication est bloquée, comme tu as laissé entendre, entre Dieu et Saül. Complètement bloquée. Quand Dieu se retire de Saül, le peuple d'Israël obtient ce qu'ils avaient demandé en premier lieu, une monarchie simple. Ils n'ont plus un roi dont le cœur est entièrement disposé à l'Éternel. Dieu ne règne plus en Israël, dans un certain sens. Dieu règne toujours sur tout l'univers. Hein. C'est lui qui est souverain. Mais là, il ne règne plus directement en Israël parce que le roi est rejeté et le roi n'est plus un homme selon le cœur de Dieu. Faire sans Dieu, se passer de lui, c'est ce que fait Saül maintenant. Ah, je pèse mes mots. Se passer de Dieu, c'est la plus grande tragédie ultime de l'être humain. Dans Jérémie 2, 19, j'ai mis ce verset dans mes notes, Jérémie 2, 19, en parlant à Israël dans son ensemble, je crois, le prophète dit: ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu. Donc, en lisant ces textes, nous devrions nous aussi nous remettre en question. Saül n'a pas réussi à se remettre en question, mais moi je devrais. Et reconnaître ma faiblesse, et dès que je suis conscient d'un péché, le confesser. Et ça, je vais ignorer. Question principale, quelle réponse de cœur envers Dieu? La bonne réponse, quand Samuel le reprend, c'est « j'ai péché ». Un blanc à remplir. J'ai péché. Saül a bien dit « j'ai péché ». Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai péché, mais honore-moi devant le peuple. Mais non, la réponse qu'il faut, c'est « j'ai péché, point à la ligne ». Point à la ligne. Un leader prend sur lui. Un vrai leader prend sur lui, accepte la responsabilité, même s'il n'a pas été l'occasion. Là, Saül est quand même l'occasion. Plus tard, on va voir dans la vie de David, quand il prend Bathsheba comme son partenaire de lit et qu'il tue Uri, on oublie souvent le meurtre, on se rappelle facilement de l'adultère et on oublie le meurtre. Mais donc, quand il tue Uri, et il est repris par son ami Nathan le prophète, qu'est-ce qu'il dit? J'ai péché contre l'Éternel. Et il n'ajoute rien. Il ne donne pas d'excuse. Oui, c'est vrai que je t'ai blessé par mes paroles, mais tu comprends, j'ai... Non. Non, non. Ah oui, c'est vrai que j'ai crié sur l'autre en tombant blessé, mais bon, j'ai mal dormi hier soir. Non. Non, non, j'ai péché, un point c'est tout. D'autres propos acceptables qui viennent de David: ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Le vrai problème de Saül n'est pas le péché. Quel est le vrai problème? C'est qu'il refuse de se repentir. Il n'arrive pas. L'Épître aux Hébreux parle Ésaü. Ésaü a cherché la repentance, il ne l'a pas trouvée. Difficile à comprendre, mais que veut dire cette déclaration? C'est dans votre support. Le péché est un obstacle que Dieu peut vaincre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut pardonner le péché à cause du sacrifice de Jésus, bien sûr. Hein? Pas autrement. Mais il ne peut vaincre la rébellion caractérisée. Cette phrase-là, ça heurte un certain nombre de chrétiens qui disent, il ne faut pas limiter ce que Dieu peut faire. Et Dieu ne peut pas faire l'absurde. Il ne peut pas pécher. Et là, en l'occurrence, il s'est limité à la responsabilité humaine de se repentir. Dieu peut pardonner celui qui se repent et qui croit en Jésus. Mais celui qui se rebelle et qui refuse de se repentir, Dieu ne peut pas vaincre cette rébellion. Parce qu'il aurait pu, mais il choisit de ne pas. Bon, difficile, hein? Encore une fois, discussion qu'on peut avoir entre nous, n'est-ce pas? Là, en l'occurrence, c'est un péché qui a été commis il y a 2000 ans, qui ne peut pas être commis aujourd'hui, je crois. Mais ça, c'est tout un débat. La résistance, l'arrogance, l'entêtement, l'obstination, tout ça, on voit chez Saül. Et nous devrons nous vider de ces attitudes-là. Page 5, la fin de l'histoire de Saül. Et on voit dans la fin de l'histoire de Saül que la chair se défend bien. La chair, c'est-à-dire la nature pécheresse, se défend bien. Samuel rend le jugement, quitte les lieux, commence à pleurer. Et Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Il pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait, c'est la fin du chapitre 15, d'avoir établi Saül roi d'Israël. Et donc on fait un deuil sur le premier roi. Et Dieu a dit, j'ai choisi un autre, un homme selon mon cœur, plan B. Parfois j'ai des réactions de certains chrétiens, ah, non Dieu, attends, tu te parles de plan A, plan B, comme si Dieu était pris au dépourvu. Non, Dieu savait dès l'avance, mais on trouve des plans B dans la Bible. David est plan B de Saül. L'Église, tout en étant glorieuse, est plan B après Israël. Certaines personnes me disent, non, tu ne peux pas parler comme ça, Jim. Dieu a prévu l'Église depuis la fondation. Mais bien sûr, mais ça ne change rien, la souveraineté de Dieu. Bon, à réfléchir. Moïse est plan B.
Dieu voulait détruire, à propos de Dieu voulait détruire Israël, et il y a Moïse qui est une confrontation.
Ah. Oui, et que Moïse a dit non, Seigneur, non, et l'argument, oui. Voilà. Grand B, Saül fait la chasse au prétendant, David. Ça a beaucoup de sens pour les Écossais, parce qu'ils ont presque toujours eu un prétendant au trône. Mon grand-père était Écossais. Au chapitre 16, il y a un esprit mauvais qui vient agiter Saül, il est tourmenté, et l'Éternel se retira de Saül. Et les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Et à un autre moment, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait de la harpe comme les autres jours, Saül voulait le tuer avec sa lance. Chapitre 18, on voit colère et rage et crainte et peur de Saül. Saül est très irrité quand les femmes chantent « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Il ne reste plus que la royauté. Je vous lis certains versets dans le chapitre 18. « Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. » Cet homme est dans un trouble énorme. Alors le psychologue, oui, ce serait un sujet d'étude pour eux. Saül... Oui. Oui. Il est vacillant. Oui. On peut voir cet épisode dans la séance suivante, cet après-midi. Voilà. Et quand Saül voit que l'Éternel est avec David, Michal sa fille l'aime, Jonathan son fils l'aime, Saül craignit de plus en plus David. Il veut le tuer, chapitre 18 et 19, il veut commettre un meurtre et tuer David. Il leva sa lance, je vais frapper David contre la paroi, mais David, il est plus vite, rapide, il se détourne. Deux fois c'est arrivé. Au chapitre 23 et 24, Saül reconnaît que David sera roi, c'est à quoi ça que tu fais référence. Jonathan, fils de Saül, se leva, alla vers David dans la forêt, fortifia sa confiance en Dieu. Il lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas, tu régneras sur Israël. Moi, je serai au second rang près de toi. Et Saül, mon père, le sait bien aussi. Mais, après que David avait coupé le pan du vêtement de Saül, maintenant, voici, je sais, dit Saül, que tu régneras. Et plus tard, il essaie de le tuer de nouveau. Et donc, à la fin de sa vie, page 5, sur le mont Gilboa, chapitre 31, chapitre 28, je crois, c'est là où Saül veut consulter l'Éternel. Qu'est-ce qui arrivera demain? J'ai peur. Et le chapitre 28 dit qu'il consulta l'Éternel par l'Urim et le Thummim, les méthodes qu'ils avaient pour demander à Dieu de parler. Je ne peux pas forcément le trouver. Non, je ne vais pas le trouver. Ah oui, je l'ai dans mes notes. Saül consulta l'Éternel, 28, 5 et 6, l'Éternel ne lui répondit point. Le silence de Dieu envers le peuple de Dieu, c'est terrible. Ni par des songes, ni par l'Urim, une méthode qu'ils avaient, que le prêtre utilisait, ni par les prophètes. Ah, c'est sous-entendu, il va chez un des prophètes, dit, dis-moi, est-ce que le Seigneur te parle, qu'est-ce qui va arriver à la bataille demain? Voyons, alors, je vais quand même m'esseler, est-ce que ça va me parler? Non, il ne me dit rien du tout. Et Dieu ne parle plus à son roi, le roi qui est roi. Imaginez que si Dieu ne parlait plus à David ou à Jésus. Non, impossible. Mais là, Saül, c'est terrible ce qui arrive. Et il est tué en bataille avec Jonathan, le grand Jonathan, et deux autres de ses fils. Et les Philistins les décapitent et pendent les corps sur des crochets, sur un mur. Les hommes de Jabès en Galade entendent parler de cette nouvelle. Et c'est pas comme ça qu'il faut traiter Saül. Il marche toute la nuit, je suppose que le jour ils étaient en danger. Et il marche toute la nuit à Beth-Shean et ils enlèvent les cadavres de Saül et de Jonathan, je crois des autres fils aussi, je ne suis pas sûr. Ils les ramènent à Jabès en Galade et je crois qu'ils brûlent les cadavres et enterrent les os. Donc ils ont fait honneur. Et David aurait approuvé. David aurait approuvé. Donc Saül, un bon commencement, mais une mauvaise fin. Lydia était secrétaire d'un homme qui était directeur, on va dire, d'un institut biblique et faculté de théologie aux États-Unis, faculté de théologie. Et vers la fin de sa vie, je ne sais pas, quand il avait 65, 70 ans, il a écrit un poème magnifique, en anglais, je ne peux pas le répéter, mais donc « Seigneur, ne me permet pas de devenir amer, de porter du mauvais fruit à la fin de mes jours. » Et cette phrase est revenue plusieurs fois que j'ai déjà citée tout à l'heure. Permets-moi, Seigneur, de rentrer à la maison avant la tombée de la nuit. C'est très parent. Saül n'a pas réussi. C'est pas facile de bien finir. Mais Dieu a déjà choisi un homme selon son cœur. On va faire un break et voir donc la prochaine fois. Mais tiens, ça vient de faire faillite avant le diapo. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui arrive avec ça? On fait un break. Vous voulez jamais trop faire le break. Dans d'autres églises, on a fait 30 minutes avec des beignets et du café. Mais là, 10 minutes nous suffira peut-être. Hein.